Nous avons un auditeur qui nous dit « J'étais entrepreneur immobilier, je construisais des gratte-ciels et j'animais des téléréalités à la télévision américaine et je suis devenu président des États-Unis.
» Ben quand même.
Quand même.
Ouais, hein?
Et apparemment, il nous écoute.
Ah oui.
C'est incroyable. il animait une ouais. télé-réalité devenue président des États-Unis.
Ouais,
c'est fou.
Ouais. Puis il n'y a plus de Twitter, hein, je pense.
Richard Châteauvert est à New York. Bonjour, Richard.
Bonjour, Paul. Je suis content de savoir que l'ancien président des États-Unis vous écoute. Il est au New Jersey actuellement et non pas en Floride.
C'est vrai?
Wow, ah ben, c'est impressionnant, ça. C'est vraiment impressionnant. Lui, c'est vrai qu'il y a eu, une trajectoire assez particulière.
Assez particulière. C'est pour ça qu'on pose la question, Richard. Vous, Richard, vous êtes traducteur, notamment. Peut-être que gens ne le savent pas.
Oui, moi, en fait, j'ai commencé parce que je viens d'une famille bilingue. J'ai fait des études de droit à l'Université Laval et... je voulais pas être avocat. Ça, c'est sûr que je voulais pas être avocat. Et j'ai abandonné au milieu du barreau. J'étais à Montréal. Et à un moment donné, j'ai appris que la presse canadienne... Je suis devenu traducteur pour un cabinet d'avocats qui s'appelle Lavry Associé, je pense, actuellement. Non, Lavry Avocat. Et là, la presse canadienne cherchait des traducteurs. Et je suis devenu traducteur à la presse canadienne.
Ah bon, ben donc, vous avez dévié en cours. Mais ça, c'est normal, souvent dans les études, on part dans une direction, on ne complète pas le diplôme, c'est-à-dire on ne va pas jusqu'au diplôme, puis après ça, on dévie pour aller ailleurs.
Mais Paul, j'ai appris, pour aller à la presse canadienne, j'ai appris la traduction, la dactylographie en un mois. J'ai acheté une méthode et j'ai appris la dactylographie comme une secrétaire.
Dans le temps qu'il y avait des dactylos, c'est-à-dire des machines à écrire.
Des machines à écrire IBM, vous vous souvenez?
Ben ça, c'était... ça, c'était le NEC plus ultra, c'est-à-dire lorsqu'elle était des IBM Selectric, je crois qu'était le nom.
Des IBM Selectric avec la petite sphère. Ouais. Mais ce qui est arrivé, c'est
que... Mais Thérèse et moi, on a commencé à une époque de la radio où on travaillait sur des machines à écrire qui n'étaient pas électriques, qui étaient manuelles.
Mm-hmm. Oui.
Et il fallait frapper fort là-dessus.
Ouais. J'ai fait ça aussi. Mais alors, je poursuis l'histoire. Je suis à la presse canadienne et je fais de la traduction. Après avoir fait de la traduction pour un cabinet d'avocats, donc je suis vraiment un traducteur. Et là, le Montréal Matin. Là, les auditeurs de 20 à 30 ans ne savent pas du tout de quoi ils parlent, le Montréal Matin.
Le Montréal Matin, c'était un quotidien.
C'est un quotidien qui a existé de 1930 à 1978. Et le Montréal Matin téléphone à la presse canadienne. Ils disent, on a besoin d'un jeune journaliste pour commencer aux faits divers. Alors, je vais au Montréal Matin et le rédacteur en chef, Marcel Desjardins, qui est un grand journaliste de qui j'ai beaucoup appris, le test d'entrée, il me dit, pond-moi un article sur un double meurtre. Invente une histoire sur un double meurtre. Alors, j'ai inventé une histoire de triangle amoureux. La femme faisait croire à son mari qu'elle suivait des cours de macramé et elle allait voir son amant. Et là, le mari l'a appris et il a assassiné la femme et l'amant. Et cette histoire m'a valu un poste au Montréal Matin.
Eh bien, on vient en apprendre une bonne.
Ce détail de l'histoire, le macramé, ça nous donne une bonne idée de
exactement.
L'année.
Exactement. Elle suivait
un cours de macramé.
Je
ne sais pas pourquoi j'ai inventé ça. J'adorais l'histoire.
Oui, mais là, Charles, on veut savoir qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvé à New York.
Oui, mais là, après ça, j'ai pas fini. Je suis allé, quand Montréal Matin a fermé, je suis entré à CJMS, je sais pas combien de mois plus tard, et c'est là que j'ai fait une carrière dans la radio.
Ouais.
C'est là que j'ai rencontré Paul Arcand. Alors, comment je suis arrivé à New York, Paul? J'ai gagné la carte verte dans la loterie.
Pour vrai?
Oui, il y a une loterie de cartes vertes depuis 1987.
Chaque année?
Chaque année, c'est au mois d'octobre. Mais moi, à l'époque, c'était avant Internet. Il fallait envoyer une lettre à une certaine adresse. Il y avait eu un article genre à la page C27 de la presse. C'était très loin dans le journal qui disait « Oui, une nouvelle loterie a été créée ». J'ai envoyé une lettre et 3 ans plus tard, j'ai reçu une lettre me disant « Vous avez été accepté ». Mais
oui.
Je n'ai pas déménagé immédiatement. J'ai déménagé 5-6 ans plus tard.
Oui, mais vous aviez... Ce que je veux dire par là, c'est aviez-vous d'abord le goût de vous expatrier, c'est-à-dire aller vivre l'expérience américaine, ou si vous aviez un domaine en particulier, notamment la traduction, pour...
Non, mais là, c'est pas tout. Je travaillais dans le cinéma à ce moment-là. Après la radio, parce que ce qui est arrivé, c'est que CJMS a fermé ses portes. Et après la radio, j'ai décidé, bon, moi, je veux travailler dans le cinéma. J'ai commencé à travailler sur les plateaux de cinéma à Montréal. Et là, je suis devenu assistant monteur. Et quand cette loterie est arrivée, j'ai toujours aimé les États-Unis. Alors, j'ai dit, j'aimerais ça aller vivre aux États-Unis. Et j'ai remporté la loterie, puis je suis...
Alors là, vous avez saisi, comme on dit, la balle au bon en disant, « Hey, j'ai ma carte verte. » Ce qui est quand même très en demande pour beaucoup de gens.
C'est la carte verte, même encore aujourd'hui. Ouais. Les gens partout au monde veulent obtenir la carte verte. Mais c'est ce que je veux dire, moi, ma vie, ça a été le destin. J'ai suivi mon destin. Je pense qu'il faut être ouvert dans la vie. Puis tous les témoignages des auditeurs le prouvent. J'écoutais Thérèse raconter toutes ces histoires. Tous ces gens, ce sont des gens qui ont écouté leur destin. Il y a quelque chose qui se passe quand on laisse le destin nous diriger, parce que c'est finalement, c'est nous qui choisissons notre destin.
Mais oui, c'est la vie est un hasard, c'est-à-dire souvent notre parcours est aléatoire. Comme Thérèse rêvait d'être professeure de macramé, elle voulait donner des cours de macramé.
Écoute,
dit ça.
Tu prononces le mot macramé là, et j'ai des boutons. Il y a une vieille histoire. J'ai une vieille
macramé.
Allergie au macramé. J'ai toujours tellement haï ça.
Moi, ça me rappelle la roue de vélo en laine que ma mère avait à la maison. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, une roue de vélo avec de la laine dedans.
Il n'y avait pas juste des roues de vélo là. Il y avait des jardinières
en macramé.
Alors, bon, vous avez tout compris d'où vient mon histoire.
Oui. Moi, j'aurais tué pour
c'est que je trouvais le macramé quétaine.
Alors, Thérèse aurait tué le prof de macramé. Ça vous aurait fait un triple meurtre. Alors, Richard Châteauvert, vous allez avoir de la visite. Là, le président actuel, qui est dans l'eau bouillante, s'en va vous voir mardi.
Oui, il vient mardi pour faire le tour des lieux qui ont été inondés. À Paterson, au New Jersey, la rivière Passaic est toujours à un niveau élevé ce matin. Ça fait quand même, c'est la pluie diluvienne, on l'a eu mercredi soir. Mais il va revenir samedi prochain à l'occasion du 11 septembre. Le président Biden va se rendre sur les trois sites. Il va se rendre au Pentagone, évidemment, parce que c'est en Virginie, en banlieue de Washington. Il va se rendre à Shanksville, en Pennsylvanie, où l'avion s'était écrasé. Il va venir ici à Ground Zero, samedi dans la journée. Donc, évidemment, il vient de connaître le pire mois de sa présidence. Il a perdu beaucoup d'appui chez les électeurs indépendants, parce qu'ici, ce sont les électeurs indépendants qui font et défont les présidents.
Ben oui.
Donc, ça va mal pour le président Biden actuellement.
Et une thématique qu'on retrouve également chez vous, parce que nous aussi, on a des cas semblables, les fausses cartes de vaccination. Il y a des gens qui proposent sur des sites Internet d'acquérir, si vous n'êtes pas vacciné, une fausse carte de vaccination. Mais il y a une jeune touriste qui était à Hawaï qui a été démasquée avec une fausse carte.
Oui, c'est une jeune femme de 24 ans de la région de Chicago. Elle est allée à Hawaï. Hawaï, il faut vous dire qu'actuellement, là, il y a un nombre, c'est un des États les plus touchés par la pandémie. D'ailleurs, le mois dernier, le gouverneur a dit « Ne venez pas à Hawaï. On vous interdit pas de venir, mais ne venez pas. » Donc, il faut, pour entrer à Hawaï, présenter soit une carte de vaccination, soit le résultat négatif d'un test effectué dans les 72 heures avant son arrivée. Et elle a décidé de présenter apparemment une fausse carte de vaccination. Comment elle s'est fait prendre? C'est que la carte indiquait qu'elle avait reçu deux doses du vaccin Moderna.
Moderna et non pas
oui,
Moderna.
C'est un nouveau vaccin, le vaccin Moderna. Non, mais vraiment, écoutez, il faut...
Mais ça répète le vaccin Madonna.
Non, mais... Quand on commet une infraction, il faut être intelligent. Ça, c'est le béaba. Alors, c'est pas tout. Sur sa carte de vaccination, c'était indiqué qu'elle avait été vaccinée dans l'État du Delaware, à 1200 kilomètres de Chicago. Alors, les autorités d'Hawaï ont bien vérifié. Elle n'a aucun lien avec le Delaware, mais elle a quand même passé 3 jours en prison. Elle a été libérée sous une caution de 2 000 $, mais là, elle fait face à deux chefs. Présentation de documents falsifiés et également le fait de ne pas avoir fait sa quarantaine de 10 jours. Parce que quand on n'a pas de carte ou pas de vaccin, il faut faire une quarantaine de 10 jours. Alors, ces deux charges pourraient lui valoir une amende de 5 000 $ par charge ou un emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an. Je ne pense pas qu'elle soit emprisonnée, mais elle va s'en tirer avec quand même une amende assez imposante, tout ça pour alors qu'elle aurait pu très bien...
Ben oui, se faire vacciner.
Se faire vacciner ou se faire subir un test. Mais ce n'est pas tout.
Là, elle est à la recherche du vaccin.
Un autre couple, Paul.
Elle est à la recherche du vaccin Pfizer. Elle veut se faire vacciner deux fois Pfizer. Après Moderna, elle voudrait avoir deux doses de Pfizer.
Ah, si. Écoutez, j'ai une autre histoire, Paul. Il y a un autre couple, cette fois de Floride, qui s'est fait prendre à Hawaï, encore une fois, avec des cartes falsifiées. Mais c'est pas tout. Ils avaient des cartes falsifiées pour leurs enfants de 4 et 5 ans, alors que les enfants de 11 ans et moins ne peuvent recevoir le vaccin actuellement. Donc, ils n'avaient même pas besoin d'avoir de cartes falsifiées pour leurs enfants.
Ils en ont. On nous tous suit pas prendre de chance. Allons-y avec des cartes de vaccination, un passeport vaccinal pour enfants. Quand même incroyable. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est comme ça. Juste en terminant, parce que c'est une histoire que Richard voulait nous raconter depuis un certain temps. Et puis, on n'avait jamais le temps, mais là, on va prendre le temps. Ça va être notre deuxième et dernière histoire, Richard. Ces gens qui, aux États-Unis, mais comme ici, qui malheureusement ont une très vilaine habitude. Se débarrasser de leurs poissons d'aquarium, des poissons rouges par exemple, en les envoyant directement soit dans un lac ou pire encore directement dans la chasse d'eau.
Mais voyons.
Et ben oui, et ça donne des résultats, Richard, particulièrement troublants.
Les gens les jettent dans les lacs. Écoutez, un petit poisson rouge, ça quoi? Ça fait un pouce de long, à peu près? Un pouce
à peu près.
On en retrouve qui mesurent un pied de long et qui peuvent peser 4 livres, c'est à peu près 2 kilos. C'est au Minnesota, on en a retiré entre 30 000 et 50 000 dans une journée dans le même lac. Alors écoutez, ça se fait partout. Il y a une étude qui date de 2008 à Montréal où on avait retrouvé 10 000 poissons. On estime que 10 000 poissons à l'époque étaient libérés chaque année uniquement à Montréal. Et les chiffres ont dû augmenter depuis. Écoutez, c'est vraiment un problème parce que les poissons rouges ce sont des poissons de fond, ils peuvent vivre 25 ans. Ils peuvent atteindre, comme je l'ai dit, un pied de long. Et ce sont des poissons de fond. Ils se nourrissent au fond des plans d'eau. Mm-hmm. Et ils remuent les sédiments. Ils perturbent le système marin. Ils sont en concurrence avec les poissons les poissons qui sont là normalement pour leur nourriture. Alors, c'est un grave problème. Dans le lac Érié, au Michigan, il y a une jeune femme qui a pêché un autre poisson d'un pied de long au mois de juillet. Donc, c'est une leçon pour tout le monde. Si vous avez des poissons que vous n'aimez plus, ben écoutez, il faut les euthanasier, il faut trouver une façon de les offrir à quelqu'un qui en voudrait, mais il faut
et ne pas les envoyer dans la chasse d'eau.
Saint-Laurent ou dans un...
Pas dans la chasse d'eau non plus.
Non, tout à fait. Non plus, pas dans la chasse.
Les gens qui font ça. En terminant, est-ce que c'est vrai la légende des alligators et des crocodiles dans les égouts de New York?
Non, j'ai jamais entendu parler de ça.
Pourtant, on disait, il y a des gens qui...
Ouais, je vais faire des recherches là-dessus.
Ben, vous allez faire des recherches, certains, parce que c'était presque... Ben, vous l'avez entendu, Thérèse, la légende urbaine, comme quoi il y avait des alligators énormes qui se promenaient dans le réseau d'égouts de New York, des propriétaires, pas trop brillants, qui avaient acheté un alligator quand il était tout petit, puis il l'avait oublié comme ça, et l'alligator s'était retrouvé dans les égouts de New York, où il proliférait.
Je peux vous dire qu'il y a une histoire qui n'est pas une légende urbaine, c'est les rats à New York,
dans le métro
de New York. Il y avait un rat qui avait été photographié avec une pointe de pizza dans la gueule. Alors, les rats dans le métro de New York.
C'est effrayant, New York.
Peut-être, en plus de ça, au début de la pandémie,
oui.
au début de la pandémie, il y avait moins de déchets. Donc, les rats sortaient plus. Ah, écoutez, des rats, j'en ai vu.
Bon, ben, on va s'arrêter là-dessus parce que je suis certain qu'il y en a qui sont inconfortables. Bonne semaine à New York. Ce sera une semaine importante. Deux visites du président, l'anniversaire du 11 septembre. Bonne semaine, Richard.
Au revoir.